ce que j'ai mangé le plus bizarre et que j'ai aimé, ce sont des chenilles. J'adore la nature ici, le calme que ça t'apporte.
Bonjour et bienvenue au balado Franco-Loops, présenté par Infonews.ca. Je suis Jamie Shinkowski et je vise à apprendre pourquoi dans notre ville anglophone à Kamloops, est-ce que la francophonie est toujours importante? Mon invité pour cet épisode est un homme qui a découvert le monde à travers sa carrière, mais il est venu à Kamloops pour découvrir son pays. Bienvenue au balado Franco-Loops, Monsieur Robert Filion, comment vas-tu?
Ça va très bien, Jamie.
Alors, merci d'avoir pris un peu de temps aujourd'hui pour faire partie de ce projet. Toi, je pense que tu amènes une perspective un peu différente, que tu as vraiment eu la chance de voir la francophonie dans des pays différents. Alors, je voulais te demander un peu de tes expériences à travers le monde, parce que tu as grandi principalement à Montréal, mais...
Oui.
À travers tes voyages, est-ce qu'il y a une place ou une région qui est ta préférée à travers toutes tes expériences?
Bien, au niveau de la francophonie, pas vraiment, parce que quand je voyageais au-delà des objectifs du travail ou des objectifs touristiques, quand c'était un voyage d'agrément, c'était de découvrir à la fois les gens, qui ils sont, comment ils vivent, de quoi il parle. Donc, c'était la connaissance des gens. Et dans ce sens-là, un de mes endroits préférés dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, c'est le marché public. Parce que dans le marché public, tu vois les gens tels qu'ils sont. Et lorsque les gens réalisent, en nous voyant, c'était en Afrique, qu'on est étranger, ils veulent aussi nous poser des questions. Donc, quand tu es ouvert, je dirais pas à l'inconnu, parce qu'avant d'aller dans un pays, j'étais toujours renseigné sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça allait très bien. Par contre, au niveau de la francophonie, il y a des écarts majeurs. Si on prend le nord de l'Afrique, l'Algérie, la Tunisie, où je suis allé souvent, le français que l'on parle là-bas, outre l'accent pour des oreilles québécoises, il est très près de ce que je connaissais là, à partir du Québec ou du Canada. Par contre, il y a d'autres régions en Afrique où les gens parlent français, mais avec un accent assez fort et des mots souvent que je ne connaissais pas. C'est des mots africains qu'on a francisés, comme nous au Québec ou au Canada. On prend des mots d'une langue étrangère et on les francise ou les anglicise. Donc, pour le français, j'ai jamais eu de difficulté. Il faut dire qu'étant bilingue, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où tu ne peux pas te faire entendre, bien que dans des petits villages, il m'est arrivé de parler avec les mains, le langage des signes, parce que personne ne connaissait soit le français ou l'anglais.
Et au sujet des expressions, des accents, est-ce que tu as des mémoires où ça t'a vraiment frappé, tu l'as vraiment remarqué?
Celui que j'ai le plus remarqué et que je mets encore en pratique, ça vient de l'Afrique, sans doute l'Afrique de l'Ouest, où les Africains, devant ma façon d'agir, qui était assez active, j'avais un projet à diriger, il fallait que les choses bougent, et naturellement, mon rythme de travail était un peu trop vite pour eux. Donc, l'expression que j'ai appris très jeune et que je trouve très juste, c'était « Monsieur, demain est un autre jour ». Autrement dit, prends pas la poudre d'escampette, prends ton temps, puis ce qu'on fait pas aujourd'hui, on va le faire demain. Et je dois avouer, après quand même plusieurs années de vie, que c'est un dicton ou un adage là, qui a sa raison d'être.
La langue doit être liée à la culture aussi. As-tu remarqué des différences venir du Québec dans des pays africains où il y a une présence des pays musulmans comparés en Europe ou comment ils utilisent la langue?
En Afrique du Nord, ce sont des pays musulmans. Et là où j'avais peut-être le plus de difficultés ou de craintes, Je travaillais pour des organismes gouvernementaux dans des édifices qui dataient de plusieurs années, avec tous les signes en langue musulmane. Naturellement, tout ce que je savais, c'est que tu lis de droite à gauche, mais je comprenais rien. Et dans certains de ces édifices, il n'y avait pas de pictogramme pour identifier les toilettes des hommes, des toilettes des femmes. Donc, il m'est arrivé de voir passer quelqu'un dans le corridor près de moi. Un homme ne m'adressait pas aux femmes pour cette question-là. La porte pour les toilettes des hommes, c'est laquelle? Et on me l'indiquait. Après un bout de temps, j'ai mémorisé l'image de toilettes pour hommes en langue musulmane de façon à ne plus avoir à le demander et surtout à ne pas faire de faux pas. Parce que là-bas, tu sais probablement, les relations entre hommes et femmes, c'est très strict, c'est basé sur la religion et les femmes ont beaucoup de contraintes. Surtout vestimentaires, mais même certaines ne te parleront pas si elles sont seules parce que tu es un homme, tout simplement. Donc, il faut s'habituer à cela. Mais je dirais, j'ai quand même travaillé plusieurs années à l'international, que ça évolue. La femme, se libère, beaucoup plus et la femme que tu vois sur la rue avec son foulard et souvent sa burqa, c'est-à-dire on voit même pas les yeux parce qu'il y a un voile devant les yeux, et la même femme lorsqu'elle t'invite chez elle, c'est deux personnes différentes. Au point où souvent mon épouse qui m'accompagnait en Afrique du Nord, en Algérie principalement, passais la journée avec l'épouse de mon chauffeur qui me trimballait d'un projet à l'autre. Et la dame n'avait pas de foulard, on se faisait la bise. Par contre, lorsqu'on sortait à l'extérieur, je les invitais pour les remercier souvent, elle mettait son foulard. Et je lui demandais, mais pourquoi tu fais ça, juste quand tu sors? Et la réponse m'a vraiment surpris. C'est pour que mon mari ne se fasse pas taquiner et même harceler par les autres hommes qui lui diraient, t'as pas le contrôle sur ta femme parce qu'elle porte pas le foulard en public. Donc ça m'avait frappé, mais au fil des ans, tu t'habitues à ça, sauf durant la période du Ramadan. Les musulmans ne mangent pas et ne boivent pas du lever du soleil au coucher du soleil. Donc, moi, n'étant pas musulman, puis ayant soif ou faim à midi, je me faisais discret, entre autres, quand il faisait très chaud, pour pas sortir ma bouteille d'eau, vers 14 heures, quand tout le monde est en sueur, mais ne peut pas boire. Par contre, ce que j'aimais du Ramadan, c'est le repas du soir, c'est un festin pendant 30 jours. Surtout quand tu demeures en hôtel, l'hôtel préparait tout le temps un buffet fantastique. Parmi les meilleures bouffes, ou du moins les plus grosses, c'est les repas du Ramadan le soir. Ça, j'appréciais. Et à ce moment-là, les gens parlent, ils sont très différents.
Je voulais aussi te demander au niveau de la nourriture, à travers tes voyages, y avait-tu quelque chose que tu as goûté, que tu te souviens, tu étais surpris que ça avait un
Oui.
bon goût ou que tu n'avais jamais rêvé de manger un tel affaire dans ta vie ou...
Ben, il faut dire que j'ai mangé des choses délicieuses sans savoir ce que c'était. Et par la suite, après le repas, surtout quand les gens ont vu que j'avais apprécié, parce que il faut donner ça aux Africains, ils sont très forts sur les sauces. Donc, j'ai mangé du singe, j'ai mangé ce qu'on appellerait remusqué ici, là, mais dans la sauce, la viande est très tendre, ainsi de suite. Mais ce que j'ai mangé le plus bizarre et que j'ai aimé, ce sont des chenilles. Pas n'importe quelle chenille, là, pas celle qu'on pourrait voir ici. En Afrique de l'Ouest, surtout, et au Burkina, au Mali, on recueille les chenilles sur ce qu'on appelle l'arbre de karité. Le karité, c'est une noix à l'intérieur avec de la crème et beaucoup de produits de beauté. entre autres pour vieillir moins vite physiquement, c'est fait à base de karité. Donc, les seules chenilles que les gens prennent, c'est celles qui se tiennent sur cet arbre. Elles sont assez grosses. J'en ai vu là qui avaient peut-être jusqu'à 3 cm. Et ce que les gens font, une fois qu'ils les ont ramassées, ils les mettent dans la potasse. Et à ce moment-là, la chenille perd tous ses poils. Et après ça, on les congèle si on ne les mange pas immédiatement. Et lorsqu'on les mange, on les fait rôtir dans du beurre et des oignons, ce qui donne une très bonne saveur. Et la texture de ces grosses chenilles-là, c'est un peu comme du foie de veau, du foie de porc. Donc, étant donné que j'adore le foie, j'aimais bien. Mais je dois dire que ce dans quoi c'était cuit, ça donnait quand même beaucoup de saveur. Je me souviens pas d'avoir pris une chenille, là, morte naturellement, et juste cuite, et la manger comme ça. En Afrique, les gens accompagnent les mets. On mange beaucoup de légumes et de fruits parce que la viande coûte cher et on ne peut pas faire paître des animaux n'importe où. C'est toujours les chicanes entre les bergers qui promènent leurs troupeaux à travers le pays et les fermiers qui voient leur récolte souvent disparaître en quelques jours parce que le pasteur avec ses vaches ou ses chèvres ou ses moutons est passé par là. Donc ça crée des conflits, mais la nourriture est bonne. Il faut faire confiance aux gens. Si la personne en face de toi, même si elle est du même âge que toi, elle en mange, ben pourquoi ça, elle n'en mangerait pas, tu n'en mangerais pas toi-même.
Puis parfois, c'est mieux d'apprendre qu'est-ce qu'on a mangé après qu'on l'a mangé.
Oui, quoique je vois souvent des réactions de gens ici quand je dis j'ai mangé du singe ou des chenilles ou d'autres sortes d'animaux bizarres, là. Wesh, comme je leur dis, pourquoi tu dis wesh, tu n'y as pas goûté? Fais confiance aux gens, s'ils en mangent, pourquoi ça serait mauvais pour toi? Il y a peut-être des goûts auxquels on n'est pas habitué parce qu'on n'a pas ce genre de cuisine par ici, mais il faut dire aussi que pour se protéger, ils sont assez forts sur les épices pour soit cacher l'odeur, la saveur ou toutes les bactéries que ça pourrait contenir. Parce que les moyens de conservation de la viande, là, si dans la majorité des grandes villes africaines, vers 17h, 18h, tu vas voir des gens se promener sur la rue avec une grosse pièce de viande dans la main et vendre des morceaux. Mais souvent, les mouches ont goûté à la viande avant que toi tu y goûtes. Donc, ça, je faisais bien attention. À peu près la seule chose que j'achetais sur la rue, c'était le poisson, parce que autant que possible, ils le gardaient vivant ou non, sous congélation, avec des gros blocs. Mais la viande chez le boucher, les Libanais sont très forts au niveau commercial. Donc, presque tout le temps, une, deux ou trois grandes épiceries libanaises où tu trouves à peu près tout ce que tu veux. Si tu ne le trouves pas, tu le demandes. Le Libanais va te l'avoir dans la semaine qui suit. Ça a été le cas des pains à hot dog au Burkina. J'avais une amie québécoise qui avait une fringale de vrai hot dog. Faisait quelques mois qu'elle était au Burkina. C'était facile de trouver les saucisses à hot dog, mais les pains tels qu'on connaissait. J'ai demandé au Libanais, puis comme je dis, une semaine ou deux après, il m'avait trouvé les pains hot dog. On a pu se faire des hot dogs sur le barbecue.
C'est fantastique. FrancoLoops est présenté par infonews.ca. FrancoLoops is presented by infonews.ca, the Thompson Okanagan's number one online news source. Your best local investigative articles.
Sign up today for their newsletter and receive the top trending stories directly to your inbox. For more information or to read today's top stories, visit infonews.ca.
Saviez-vous que?
Saviez-vous?
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 Saviez-vous que?
Savannah in ville au nord de Kamloops. Savannah est aussi au bord du lac Kamloops. C'était découvert par les French fur traders et ils l'ont nommé Bout du lac dans les 1800. Mais en 1885, quelqu'un du nom François Savonneur a construit un traversier pour traverser la rivière Thompson et a changé le nom à Savannah Ferry. Savannah était originalement le terminus pour le Caribou Wagon Road Railway et ceux qui allaient aux Goldfields avaient besoin de prendre un bateau à vapeur pour traverser le lac. En 1915, le Canadian National Railway, CN Railway, a construit des rails pour les trains à l'autre côté du lac. Quand ils construisaient les rails du côté sud, ils avaient besoin de tirer les maisons par-dessus la glace du lac.
Le segment « Saviez-vous que? » a été écrit et enregistré par les jeunes francophones de Kamloops et sa région. Merci à Mackay Giles de nous avoir appris l'histoire du nom de la village de Savannah. As-tu une place préférée que tu aimerais retourner ou que tu tiens vraiment au cœur toujours?
L'endroit qui m'a le plus fasciné, premièrement par le nom, c'est Zanzibar. C'est une petite île sur l'océan Pacifique, donc à l'est de l'Afrique. Et c'est un des endroits où la majorité des esclaves partaient pour être vendus, soit en Europe, soit aux États-Unis. Et ils ont conservé beaucoup de signes qui montrent très bien ce qu'était le commerce des esclaves durant ce temps-là, les endroits où ils étaient gardés, attachés, mains et pieds liés, ainsi de suite. Ici, au Québec ou au Canada, quand on entendait parler d'esclaves, on pensait surtout aux esclaves au sud, dans le sud des États-Unis. Mais là-bas, l'esclavage, là, c'était un commerce. Les vendeurs d'esclaves avaient du personnel qui attaquait des villages et qui volaient, enlevaient carrément les gens. Donc, de beaux endroits. J'ai parlé de Zanzibar, mais l'endroit qui m'a le plus fasciné au niveau émotif, c'est dans le Sahara, assis au sommet d'une dune, où tu regardes tout autour et il n'y a rien que du sable. Il n'y a aucun bruit, cette sensation d'être un grain de sable parmi autant de sable, là, ça m'avait frappé. J'avais adoré, j'adore encore ce sentiment d'être tout petit, puis en même temps d'être très grand, d'avoir cette chance-là d'être sur une colline dans le désert et d'être vivant et de pouvoir apprécier. Le silence, c'est fascinant, là, moi qui parle beaucoup en général, de dire que j'appréciais le silence.
Tu te taquines un peu en disant que toi, tu parles beaucoup, mais dans cette année et demie qu'on se connaît, je trouve que tu es un homme vraiment social. Ça va dû être un aide pour toi en voyageant tellement dans le monde aussi.
C'est une qualité première que tu dois avoir quand tu voyages dans des pays étrangers. C'est une qualité essentielle si tu veux établir des relations constructives dans un pays étranger, surtout découvrir les gens. Si les gens ne te parlent pas, tu vas découvrir quoi? Des paysages, des édifices, très beaux, mais tu n'as pas la culture du pays. Donc, moi, voyager, puis encore aujourd'hui, ce que j'adore, c'est de pouvoir échanger avec les gens.
pour toi, ça fait combien de temps maintenant que tu es à Kamloops?
Au mois d'octobre, début octobre, le 6, si je me souviens bien, ça faisait 7 ans.
Tu nous as beaucoup raconté que tu avais découvert le monde, mais pas ton pays.
C'est ça.
Tu es venu, ton fils et tes petits-enfants sont installés à Kamloops. Alors, c'est vraiment ça qui t'a amené ici?
Oui, parce que, comme tu l'as dit, je ne connaissais pas le Canada à l'ouest de Windsor, Ontario. Et c'était un peu aberrant, alors que j'étais rendu, de pouvoir dire j'ai visité, je ne me souviens pas combien de pays dans ma vie. Et mon propre pays, je ne le connais pas au-delà de Windsor et ce qui est à l'est. Je connaissais bien les Maritimes, tout ça, parce qu'en famille, on faisait des voyages. Et l'île du Prince-Édouard était un des endroits de vacances l'été quand les enfants étaient jeunes. Donc, c'est ce qui m'a attiré ici. Et les montagnes, les rivières, comme je dis, c'est ce qui va me garder ici. Mon fils m'annonçait récemment qu'il pense déménager à Calgary durant la prochaine année. Et il m'a demandé, est-ce que tu viens avec nous? Et ma réponse a été non. Je ne veux plus vivre dans une grande ville. J'adore la nature ici, le calme que ça t'apporte, les gens qui vivent près de la nature. Et les Autochtones nous ont donné des leçons là-dessus. C'est pas des gens qui courent tout le temps, qui sont pressés, qui prennent pas le temps de te dire bonjour parce que trop pressés. Donc, pour moi, je reste à Kamloops. Et si je devais retourner au Québec, ce serait probablement dans la région de Magog où j'ai un autre fils, parce qu'à Magog, il y a un grand lac, il y a des rivières, il y a la montagne. Ça me permettrait de retrouver, d'être près de la nature. Et pour moi, c'est bien important.
Tu nous as parlé souvent qu'une de tes habitudes au quotidien, c'est d'aller dans un des parcs de nature ici, promener ton chien, puis il y a des belles vues de là, puis vivre dans la nature. C'est quelque chose que je pense qu'on n'apprécie pas toujours assez quand on vit ici à Kamloops.
C'est qu'il faut prendre le temps d'apprécier la nature. Comme tu dis, j'ai la chance de vivre à moitié de la montagne, à Bachelor. Et avec ma chienne, je me promenais régulièrement dans différents sentiers. Elle adore aller sur la montagne parce qu'elle peut courir après des bâtons que je lance. Mais il faut aussi regarder, au printemps, tu vas voir des petites tiges avec une fleur qui n'est pas encore ouverte. Et 2-3 jours plus tard, whoop, tu passes là et la fleur est grande ouverte. Donc, c'est fascinant de voir la nature qui, au printemps, là, comme un jeune enfant, il se développe et il nous offre des beautés pour l'œil. La seule chose que, des fois, quand je parle de beauté pour l'œil, ce que j'ai plus de difficulté à trouver en Colombie-Britannique, c'est les couleurs automnales qu'on a au Québec, surtout au niveau des érables. Mon épouse était née dans une érablière, donc quand on visitait la famille, les parents, à l'automne, on pouvait bénéficier là, de ces paysages tellement beaux là, que tu ne les oublies pas. Ça, ici, des fois, ça me manque, quoiqu'il y a certains coins où quelques arbres ont des couleurs. À l'inverse, ce qu'on n'avait pas au Québec et ce qu'on a ici, c'est les arbres en fleurs au printemps, entre autres les cerisiers. Quelquefois, je me suis payé des voyages à Vancouver durant, je pense, au parc Élisabeth, je ne me trompe pas, où il y a beaucoup de cerisiers en fleurs. Là. Quand tu prends le temps d'admirer la beauté de la nature, elle t'apporte beaucoup, et surtout des souvenirs. J'ai la chance d'avoir un cerveau qui est encore fonctionnel, donc il peut se garder ces souvenirs-là.
Un des buts pour moi pour ce projet, c'est d'apprendre la relation personnelle de les membres de notre communauté, parce qu'on vit dans un milieu principalement anglophone. Alors pour toi, Robert, pourquoi est-ce que tu trouves que la francophonie est importante à Kamloops?
Parler une langue seconde étrangère, au Canada, le français passe souvent pour langue seconde dans la majorité des provinces, mais c'est aussi une langue officielle. Et pour moi, parler 2 langues, 3 langues, c'est une richesse inouïe. parce que ça te permet de communiquer avec des gens de différentes cultures selon la langue qu'ils parlent. Donc, quand tu te débrouilles en français, c'est parfait en anglais. Et ce que je trouve, tu as animé plusieurs fois le Café Jazette, ce que je trouve fantastique au Café Jazette, c'est d'amener des gens à entendre et je dirais même à voir la beauté d'une langue différente. Et le français est une très belle langue parce que très développée. Tu n'as pas besoin de connaître tous les mots du dictionnaire. Et c'est une langue latine. Pour moi, qui a appris le latin dans ma jeunesse, tout ça, il y a comme une mélodie quand tu parles le français, doucement, bien articulé. Alors que l'anglais, c'est une langue beaucoup plus directe dans une conversation quotidienne. Là, tu ne peux pas nécessairement parler de poésie dans une discussion en anglais, alors qu'en français, dans le choix des mots, la discussion peut presque à la limite là, être poétique.
C'est toujours un effort. Qu'est-ce que moi j'apprécie dans ta famille, c'est que la règle chez vous, c'est qu'on parle à papy, c'est interdit de parler en anglais.
C'est ça.
Alors, pourquoi as-tu décidé que chez vous, ça allait être comme ça?
C'est principalement avec mon plus jeune petit-fils qui est arrivé très jeune à Kamloops et qui a été mêlé... Même s'il allait à l'école francophone, tu sais comme moi que même en classe, mais surtout dans la cour de récréation, les enfants parlent anglais entre eux parce que c'est plus facile, c'est plus rapide, ainsi de suite. Mais moi, j'insiste auprès de mon petit-fils parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une richesse. Être bilingue, ça t'ouvre des portes. Ça m'a ouvert des portes au-delà de mes 70 ans parce que le cerveau était là. Le bilinguisme, quand tu parles espagnol, comme j'ai souvent dit, là, avec ces trois langues-là, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où tu ne peux pas aller et te faire comprendre. Le fait de parler plusieurs langues, c'est communiquer. Et la communication, elle va t'ouvrir des portes.
Tu étais conseiller du CSF, tu es toujours conseiller avec l'AFK. Pourquoi as-tu décidé de t'impliquer à ce niveau pour représenter la communauté francophone de Kamloops?
Si je commence par l'association, comme j'ai dit, pour moi, quand je voyage, un des buts, c'est de connaître la culture, connaître les gens. Donc, dès mon arrivée à Kamloops, je me suis informé qu'est-ce qui se faisait en français. Quelqu'un m'a dirigé vers l'association. J'ai rencontré Margot, qui est la directrice générale, et je lui ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est de parler aussi souvent que possible en français, découvrir des gens d'ici qui parlent très bien ou peu le français. Fait qu'elle dit, ben, deviens membre, puis de là, membre du conseil d'administration. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'association. Pour ce qui est du conseil scolaire francophone, mon rôle, c'est que mes petits-enfants étaient à l'école Colindor et malheureusement, et je comprends le pourquoi, l'enseignement qu'ils recevaient faisait en sorte qu'ils régressaient par rapport à ce qu'ils avaient appris au Québec. C'est ce qui m'a poussé à m'impliquer pour voir du développement à l'école Colindor et surtout au niveau secondaire, parce que quand je suis arrivé, il y avait juste le primaire qui existait et les gens qui étaient là faisaient leur possible. Donc, je suis devenu assez près de l'école parce que j'avais du temps libre, donc on me demandait d'accompagner mes petits-enfants et d'autres dans des excursions à Adams Lake, ainsi de suite. De fil en aiguille, comme on dit, j'ai appris à connaître les professeurs, beaucoup Barney Antoine, avec qui je travaillais plus étroitement au niveau des mathématiques, qui était ma branche forte à moi à l'école. Et c'est comme ça que je suis devenu impliqué. Et quand j'ai vu que l'avenir de Colline d'Or n'était pas assuré au niveau du secondaire, j'ai posé ma candidature, j'ai été élu par acclamation. Quelques années plus tard, le terrain où est l'école, très grand terrain d'ailleurs, a été donné ou vendu à un prix très... En tout cas, le gouvernement a couvert le prix, ce qui fait que l'école Colline d'Or est maintenant propriétaire de ce grand terrain. J'ai poussé beaucoup pour le secondaire. L'Association des parents a réussi à trouver l'école secondaire Kamloops Christian School pour avoir des locaux. Malheureusement, les locaux n'étaient plus disponibles depuis un an. Donc, au niveau du CSS, j'ai fait des pressions et on a développé un projet qui prévoyait l'agrandissement de l'école à l'été dernier et la construction d'une école secondaire complète avec gymnase, théâtre, ainsi de suite, à partir de 2025.
Robert, je dois te remercier énormément pour prendre du temps un matin à faire partie du projet du balado Franco Loops. On n'a pas même eu la chance de parler de ton amour des chevaux, mais si les gens qui sont à l'écoute veulent entendre plus de tes histoires, et je vous invite à venir aux activités communautaires. Robert est souvent là. Venez lui écouter parler de manger des singes, des chenilles, tous ses voyages. Il y a toujours une histoire à raconter. Alors, merci beaucoup, Robert, de faire partie du balado.
Puis lancer l'invitation de devenir membre, ou du moins le 2 février, il y a un repas spaghetti qui est prévu. Donc, mettez ça sur votre agenda. Lisez la lettre du mois que Jamie rédigeait pendant plusieurs mois pour vous coller sur la francophonie à Kamloops.
Franco Loops, présenté par infonews.ca, est une production originale de l'Association francophone de Kamloops, diffusée en collaboration avec WebWest. Il faut remercier nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien et BC Gaming, Erika Tavernari pour la création du logo, Cutting Station Studios pour le thème musical, Jackie Shinkuski pour la photo de couverture, et un énorme merci encore une fois à Robert Filion. Finalement, merci à vous d'être à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, pensez de le partager avec un ami, à vous abonner et à nous laisser un commentaire 5 étoiles. Merci et à la prochaine!
À la prochaine!